m'appelle Naël.
Bonjour, je m'appelle Louise.
Bonjour, c'est Noki.
Bonjour, je m'appelle Laurine.
Hello, my name is Bérénice.
Bonjour, je m'appelle Adèle.
Bonjour, je m'appelle Fiona.
Konnichiwa, je m'appelle Lily Rose.
Salut, c'est Ayla.
Nous sommes les enfants du centre de loisirs Chloé. Bienvenue dans notre émission.
Les balades en nature.
Écoutez Radio B.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio B.
Nous sommes les enfants du centre de loisirs Chloé.
Je m'appelle Naël.
Moi c'est Adèle.
Et moi Naoki.
Bienvenue dans notre émission.
Aujourd'hui on vous amène faire une balade en nature.
Participez à notre quiz.
Découvrez notre lecture du livre Un castor très occupé
de Nicolas Hoogland.
Retrouvez aussi l'interview de Flora, c'est notre animatrice.
Et de Florian Di Perno, c'est un pépiniériste.
On commence cette émission avec un quiz.
Nous passons les micros à Lily Rose.
Rattrapez les bâtons.
Voici ma première question. Pourquoi dit-on que les forêts sont les poumons de la Terre ? Réponse A, car c'est le grande réserve naturelle. Réponse B, car elle transforme le gaz carbonique en oxygène. Réponse C, car l'air est moins pollué là-bas. Dans le corps humain, un poumon trie l'oxygène et le gaz carbonique. Il envoie le premier dans le sang quand le deuxième est rejeté dans l'air. C'est donc la réponse B.
Bravo Lily Rose. As-tu une deuxième question ?
Oui. Comment appelle-t-on les parents d'un marcassin ? La mère d'un marcassin est la lait. Quant au père, c'est le sanglier.
Merci Lily Rose pour ces informations. À présent, c'est à Sienna et à Louise de nous poser des questions.
Voici notre première question. La forêt amazonienne représente près de la moitié des forêts tropicales du monde entier. Vrai ou faux ?
C'est vrai, c'est la plus grande forêt du monde. Nous avons une deuxième question. L'ocelot et le tatou géant sont des animaux nocturnes vivant dans la forêt amazonienne. Vrai ou faux ? C'est vrai, on peut aussi citer le puma qui chasse à l'aube et au crépuscule ou encore la kouti.
Pour finir, savez-vous qu'il fait sombre dans la forêt amazonienne ? À votre avis, par rapport au sommet des arbres, quelle quantité de lumière atteint le sol ? Réponse A, moins de 20%. Réponse B, moins de 10%. Réponse C, moins de 5%. Réponse D, moins de 1%.
C'est la réponse D, moins de 1%.
Merci Louise et Sienna pour ces questions.
On espère que notre quiz vous a plu
et que vous avez appris des choses. À présent, c'est l'heure de retrouver notre interview de Flora.
Elle est animatrice au centre de loisirs Chloé à Bourg-en-Bresse.
Bonjour Flora.
Bonjour.
Pour commencer, peux-tu te présenter ?
Bien sûr. Eh bien, je m'appelle Flora, j'ai 23 ans. Je suis animatrice au centre social Plateau-Gare depuis un peu plus de 5 ans. Et cet été, ça fait mon 6e été avec les enfants. Et j'ai un bac esthétique en possession. Voilà.
Quelles activités en lien avec la nature sont proposées par le centre de loisirs ?
Souvent, c'est des jeux dans les parcs aux alentours du centre social. Et on a déjà organisé une balade pour ramasser des déchets au centre-ville.
Et au niveau du sport, que peut-on faire ?
On peut faire des footings, de la marche à pied, de la boxe. Il y a plein de sports à faire en extérieur.
En forêt, que peut-on observer ?
On peut observer les insectes, des animaux qu'on ne voit pas forcément en ville, mais surtout des végétaux et d'autres passants, des marcheurs, des coureurs.
Selon toi, pourquoi c'est important d'emmener les jeunes faire des balades en nature ?
C'est important pour qu'ils puissent déconnecter de tout ce qui est télé, réseau, jeux, vidéos, etc., etc.
Et toi, quelle activité en lien avec la nature aimes-tu faire ?
Eh bien, moi, j'aime beaucoup aller me balader, me ressourcer dans des endroits plutôt calmes. J'aime beaucoup observer les couchers et levers de soleil aussi en pleine nature.
As-tu un endroit à nous conseiller dans la région ?
Oui, tout à fait. La rivière d'Ain, qui est un très bel endroit pour se ressourcer.
As-tu un souvenir à nous raconter d'une balade en nature ?
Oui, alors c'était pas forcément avec les enfants pour le coup, c'était sur un week-end entre amis animateurs. Justement, on est parti escalader un peu le coin au-dessus de la rivière d'Ain et on a dormi dans un lieu normalement pas très autorisé. Et pour le coup, c'était très très beau et on a énormément rigolé.
Merci Flora d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir.
Merci à vous les enfants.
De rien.
Rattrapez les bazons.
Merci Flora d'avoir répondu à nos questions. C'est Ayla au micro.
Et moi, je m'appelle Bérénice.
Nous sommes allés sur le terrain.
Les Burgiens ont plein de conseils nature à vous partager.
On écoute ça tout de suite.
Quel type de balade en nature faites-vous ?
Eh ben, des balades en forêt, j'aime bien me balader en forêt vers chez moi.
Autour des lacs, je marche autour des lacs, j'aime bien.
Moi, je fais de la randonnée en forêt et en montagne.
Bah, écoutez, de la randonnée, de marcher, des fois de courir dans la nature aussi.
Je fais des randonnées avec des amis.
Des balades en vélo et des balades à pied.
Je fais des balades en nature, dans les chemins, surtout de la course à pied et de la promenade avec les enfants pour monter sur les points de vue.
Souvent, je ramasse les champignons ou je fais de la randonnée.
En nature, j'aime bien faire la montagne, monter dans les montagnes.
Je fais des balades avec des vélos.
Qu'aimez-vous observer dans la nature ?
Les arbres et les animaux, quand j'en vois, mais il n'y en a pas souvent.
Alors les oiseaux, les chiens aussi, pour voir comment ils font et tout. Les hirondelles, enfin tout bête, tout oiseau.
Les fleurs, les arbres, les oiseaux, tout ce qui m'entoure.
Les étoiles.
Bah, oui, les arbres qui sont grands, qui sont beaux, et surtout les points de vue, et quand on a une belle vue sur un village ou sur une belle vue qui donne loin.
Bah, j'aime bien observer les plantes, les arbres, enfin tout ce que la nature nous réserve.
Alors moi j'aime beaucoup les plantes, et grâce à des applications, en fait, je cherche le nom des plantes, et puis et comme ça on cherche les propriétés médicinales des plantes.
J'aime bien guetter s'il y a des écureuils.
Les arbres, les montagnes, les paysages.
J'aime bien les couchers de soleil.
Les paysages, comme les rivières, les fleurs, les montagnes.
Avez-vous une balade en nature à nous conseiller dans la région ?
Oui, j'aime beaucoup aller aux Caronnières, vers la forêt de Seillon, et puis un peu à Bouvant aussi.
Moi, j'aime beaucoup la Grange du Pin, qui est à Saint-Étienne-du-Bois. Il y a la forêt de Seillon, à côté. Et l'île Chambeau aussi, c'est très beau.
La ferme du Souget, à Montrevel.
le tour des lacs de Montrevel. Et puis dans le Revermont, il y a pas mal de choses au Mont-Mion.
Oui, alors il faut aller à, après Mataflon à Chouja. Le point de vue, je sais plus comment il s'appelle, mais ça donne vue sur tout Thouarette. C'est super beau.
Alors moi, j'aime bien aller à la cascade de Césaria. C'est une petite balade, alors c'est, elle n'est pas très longue. On descend des escaliers, il y a une cascade en bas quand il ne fait pas trop sec. Et puis après, on peut se balader dans une petite forêt. Puis voilà, c'est sympa. Alors c'est une balade qui est accessible et qui est courte et qui n'est pas très très loin.
Vous pouvez vous balader dans les petites montagnes qui s'appellent le Revermont, là, juste en sortant de Bourg. Là, il y a plein de belles balades.
Dans la région, alors moi, je fais beaucoup dans le Jura. Au-dessus de Saint-Amour, c'est pas très loin d'ici, il y a des très 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 belles balades au-dessus de Saint-Amour. Juste au-dessus de Saint-Amour, vers le château d'Andelot.
Je viens du Québec. Au Québec, il y a beaucoup de montagnes, donc des très grands pics à escalader. L'automne, avec les feuilles qui changent de couleur avant l'hiver.
Merci à toutes les personnes ayant répondu à nos questions. Connaissez-vous le métier de pépiniériste? C'est un métier en lien avec les arbres. Nous appelons Florian pour nous en parler. Bonjour Florian.
Bonjour.
Pour commencer, peux-tu te présenter?
Bien sûr. Alors moi, du coup, je m'appelle Florian. Je suis pépiniériste sur Bourg-en-Bresse. Pépiniériste, c'est quelqu'un qui fait pousser les arbres pour planter dans les jardins, dans les villes après. Je suis aussi commerçant de la boutique Arbre & Cro en ville, qui est la nouvelle boutique qui est dans le centre-ville pour amener les plantes d'intérieur, les plantes du jardin en plein centre-ville.
Peux-tu présenter ton entreprise?
Alors mon entreprise, c'est la Pépinière Ménot, qui est tout à côté de Bourg-en-Bresse. Elle existe depuis maintenant bientôt 100 ans. Dans laquelle je suis arrivé moi il y a 5 ans, où on fait pousser sur une très grande surface extérieure beaucoup d'arbres en pleine terre, donc un peu comme pousse le maïs, mais nous on fait pousser des arbres, on les fait démarrer tout petits et après on les laisse grandir plusieurs années, des fois 10, 15, 20 ans, pour après faire des aménagements, des jardins, des parcs, des projets de toutes les tailles pour comme chez vous dans vos jardins ou alors pour des très grandes villes des fois.
Une pépinière, c'est quoi?
Alors une pépinière, comme dans le nom tu entends, il y a le mot pépin. C'est-à-dire qu'on fait pousser à partir de la graine d'un fruit, on fait pousser l'arbre. Par exemple, le pépin d'une pomme, nous on va faire pousser les pommiers. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une pépinière. Une pépinière, on fait démarrer de la petite graine jusqu'à l'arbre adulte. Et après, une fois que l'arbre est adulte, nous on le prépare. On le sort de terre et après on le prépare pour qu'il aille dans un camion et qu'il aille après dans le jardin dans lequel il sera planté.
Comment s'occupe-t-on d'une pépinière?
Alors il y a beaucoup de choses à faire sur une pépinière. C'est-à-dire que des bases déjà de tout début, on va devoir préparer la graine. C'est-à-dire que la graine, on ne peut pas la mettre tout de suite comme ça en terre. Il y a des graines, par exemple, comme les graines de noisettes, où il y a une petite coquille autour. Cette coquille, il faut qu'on la ramollisse. Donc on va d'abord les faire tremper dans l'eau, et après on va faire ce qu'on appelle stratifier la graine, c'est-à-dire qu'on va la faire préparer à ce qu'elle germe. Une fois qu'elle est germée, on va faire pousser ce qu'on appelle le jeune plant. Donc tu as d'abord des premières petites feuilles qui vont sortir, et une fois que la plante est un petit peu grande, on va la mettre en pleine terre. Donc voilà, après, comment on fait pousser un arbre tout doucement.
Combien de temps ça prend?
Ça dépend des arbres. Tu as des arbres qui vont pousser très vite, d'autres qui vont mettre beaucoup de temps à pousser. Généralement, un arbre ou un petit arbuste, en tout cas, il faut au moins 3-4 ans. Au bout de 3-4 ans, on considère qu'il est assez solide et assez grand pour pouvoir avoir des racines, qu'on puisse sortir de terre et qu'il puisse reprendre après dans son prochain jardin. Mais ça peut aller de 3-4 ans jusqu'à, chez nous, 15-20 ans. Il y a des collègues pépiniéristes comme nous, chez qui ça met beaucoup plus de temps. Ils ont des arbres, des fois, qui ont 40-50 ans, voire plus.
Quel arbre cultives-tu?
Alors, j'en cultive beaucoup. On cultive beaucoup des petits arbustes à fleurs, ce qu'on appelle des arbres mellifères. Mellifères, c'est pour attirer les abeilles et les insectes, pour faire qui font le plus de pollen par les fleurs pour qu'eux, elles fabriquent le miel. Ça, c'est des essences qu'on fait beaucoup maintenant. Les essences, c'est les variétés d'arbres. Et on fait aussi beaucoup d'arbres pour faire de l'ombre dans les jardins, dans les parcs, pour avoir moins chaud aussi l'été. Et on va faire aussi des nouveaux arbres qui sont des arbres qui vont mieux résister à ce qu'on appelle la sécheresse. Donc qui vont mieux résister au soleil, aux températures très chaudes de l'été, mais qui résistent aussi très bien l'hiver au froid, parce qu'on est dans une ville et une région où il peut faire très froid l'hiver, il y a de la neige encore chez nous, mais l'été, comme tu vois, des fois, il fait comme l'an dernier, il fait très très chaud aussi. Donc il faut que les arbres puissent survivre à tout ça, donc on essaye de chercher de nouvelles variétés. Donc des fois, on plante ce qu'on appelle le chêne vert, par exemple, qui est un petit arbre que tu trouves dans le sud. Nous, on essaie de le cultiver chez nous pour voir s'il résiste sur Bourg-en-Bresse, alors qu'il est originaire plutôt de la mer Méditerranée.
Est-ce que tu proposes des arbres fruitiers ?
Alors, on en propose. Alors, nous, on ne les produit pas, parce que c'est un métier qui est un métier différent. C'est un métier d'arboriculteur. Nous, on les propose par un collègue qui les fabrique, qui les crée. Sur un arbre fruitier, c'est un peu particulier. Il faut faire pousser une graine et après faire ce qu'on appelle un greffage dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, juste à partir de la graine, avoir un fruitier. Donc, nous, on en propose avec ce collègue-là qui les produit dans la région avec nous. Et on propose des fruitiers de toutes sortes, donc pommiers, cerisiers, poiriers, pruniers, tous les fruits qu'on aime bien manger. On essaie de les proposer avec des fois des nouveaux fruitiers. L'olivier, par exemple, on propose parce que l'olive, c'est un fruit qui pousse très bien chez nous. Donc on essaie de proposer des nouvelles choses un peu sympas.
Comment t'y prends-tu pour décorer un lieu avec des plantes ?
Alors ça passe par beaucoup de choses. D'abord, nous, ce qu'on fait d'abord, c'est de rencontrer les personnes, de rencontrer les gens. Parce qu'on pense d'abord que quand tu veux décorer un endroit, c'est tu veux qu'il te ressemble, tu veux qu'il soit à ton image. Donc on essaye de comprendre d'abord la personne avant de proposer quelque chose. Donc on vient généralement dans le jardin de la personne ou sur rendez-vous, dans le bureau par exemple, sur le balcon, dans le parc. On essaye de découvrir l'endroit pour savoir où vont nos arbres, savoir s'ils vont être bien là-bas. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les arbres comme ça non plus. Si l'arbre, on sait qu'il ne va pas être heureux et qu'il ne va pas s'épanouir, on ne va pas le proposer. On va leur dire non, ça, c'est pas adapté. On proposera autre chose ou on ne proposera pas. Et après, une fois qu'on a fait ça, on essaye après de faire ce qu'on appelle une liste végétale. Une liste végétale, c'est de choisir les arbres qui seront adaptés. Et une fois qu'on a fait cette liste végétale, après, on arrive à ce qu'on appelle la vente. Donc la vente, c'est le fait de donner les arbres ou de les amener à la personne.
Tu peux nous citer des parcs publics dont tu t'es occupé ?
Alors, on en a fait. Alors sur Bourg, il y a très longtemps, il y a beaucoup des arbres de la ville de Bourg, moi, qui viennent de chez nous, d'il y a très longtemps. Tu as les ginkgo, par exemple, qui sont place de la Grenouillère, qui viennent de chez nous, mais d'il y a très longtemps. Il y a les tilleuls aussi sur les rues autour du centre-ville. Après, nous, on a fait récemment un hôtel qui est à Évian. Évian, c'est vers le lac de Genève, où on a fait tout l'aménagement du parc du golfe d'Évian. Il y a plusieurs villes aussi, Perona, par exemple, à Perona. Généralement, tous les arbres qui sont plantés à Perona sont de chez nous. Sur Lyon, on a fait un projet qui va arriver bientôt, qui est sur Montchat. Montchat, c'est un quartier dans Lyon, où tous nos arbres sont actuellement en culture chez nous. Donc ils sont en train de pousser, ils sont en train de grandir chez nous, comme une nurserie, si tu veux. Et dans 2-3 ans, ils vont aller à Montchat. Ils ont été plantés par des enfants comme vous, qui sont venus de l'école de Montchat jusqu'à notre pépinière. Ils sont venus chacun planter leur arbre, pour qu'on les cultive pendant 3 ans. Et dans 3 ans, ils vont venir les chercher et les replanter à Montchat, ce qui est l'ancienne clinique de Trarieux, qui est aujourd'hui, qui va être transformée, qui ne sera plus un hôpital, mais qui sera un espace de logement. Et donc voilà, on a ces démarches-là. On a fait aussi souvent des plantations avec des écoles pour qu'ils viennent tous planter un arbre. Voilà, on essaie de faire de plus en plus de petits projets. On ne fait pas des gros projets, parce qu'on n'est pas une très grande pépinière. Nous, on fait beaucoup des petits projets comme ça, avec beaucoup de valeur. Et d'abord, de penser à demain, avec les gens.
Comment entretient-on un jardin ?
Bon, un jardin, alors aujourd'hui, les gens demandent beaucoup un jardin qui ne s'entretient pas. Alors c'est souvent ce qu'on nous demande, on veut un jardin mais sans entretien, alors c'est pas forcément faisable, c'est-à-dire qu'un jardin c'est forcément un minimum d'entretien. Mais un jardin, en soi, une fois que tu as bien taillé, que tu comprends que c'est important de tailler les arbres, c'est comme toi, par exemple, si tu tailles pas tes ongles, ça devient vite sale, ça devient vite pas propre. Un arbre, c'est pareil, il faut l'entretenir, il faut le tailler. Une fois que tu as compris ça, un jardin s'entretient très facilement. Ça passe par, par exemple, comme vous voyez souvent, tondre la pelouse. Ça, c'est des choses qui, plus pour faire joli. Mais un jardin, si tu veux l'entretenir, c'est les premières années où il y a vraiment beaucoup d'entretien. C'est-à-dire que tu vas vraiment passer du temps à tailler, nettoyer les fleurs, ramasser les feuilles mortes, les choses comme ça. Et après, avec le temps, le jardin, il va devenir ce qu'on appelle plus autonome. C'est-à-dire qu'il va devenir plus à même de se débrouiller tout seul.
Quelles plantes sont adaptées au climat local ?
Un climat local, il est très changeant, comme tu as dû voir et comme tu dois entendre un petit peu partout. On parle de réchauffement climatique. Ce qui fait que nous, à Bourg-en-Bresse et dans la vallée du Rhône, on est parmi les régions les plus atteintes, les plus sensibles. C'est-à-dire que c'est là où le réchauffement est de plus en plus fort. Donc, beaucoup de plantes sont adaptées. C'est pas parce qu'il fait très chaud l'été qu'il y a de moins en moins de plantes. Au contraire, il y a de plus en plus de plantes qui s'adaptent dans notre région. Tu as par exemple, tu vois beaucoup maintenant l'olivier dans beaucoup de jardins. Avant, c'était pas possible. Tu vois maintenant, comme je disais tout à l'heure, des chênes verts qui commencent à s'adapter. Tu as beaucoup de plantes, en fait, ce qu'on appelle les plantes méridionales, c'est-à-dire les plantes qui poussent d'habitude dans le sud de la France, qui commencent à très bien s'adapter chez nous. Et aussi, il faut penser qu'on reste quand même une région où on a les montagnes pas loin, on a quand même le froid de l'hiver, il faut quand même qu'on ait des plantes qui s'adaptent aussi au fait que l'hiver, il peut faire quand même très froid, il peut y avoir du gel, il peut y avoir de la neige. Donc, il y a beaucoup de plantes qui peuvent s'adapter à ça. Et il y a des plantes qui ne s'adaptent plus, par contre, il y a très longtemps. Par exemple, nous, il y a 20-30 ans, dans la pépinière, on produisait beaucoup du bouleau. Le bouleau, tu les vois en forêt, souvent, c'est ceux qui ont le bois très blanc. Ceux-là, ils souffrent beaucoup. Ils ont beaucoup de mal à s'adapter au réchauffement climatique. Donc ça fait partie des essences qu'on vend moins, qu'on produit moins. Tu vois aussi, si tu vas te promener en forêt, les épicéas. Les épicéas, c'est ce que tu vois en sapin de Noël, des fois. L'épicéa, c'est un arbre qui souffre beaucoup. Alors, c'est pas forcément le réchauffement climatique, mais c'est un insecte qui les fait mourir de plus en plus. Donc, tous les ans, on va dire, il y a des essences qui souffrent un petit peu et d'autres qui commencent à très bien s'adapter. Donc, on commence à avoir ce qu'on appelle une palette végétale, donc comme une palette de couleurs. Une palette végétale avec de plus en plus de couleurs, avec de plus en plus de variétés. Donc, on va dire, en soi, le réchauffement climatique, il faut qu'on s'adapte. On y arrive, et les végétaux y arrivent aussi. Il faut du temps. Comme nous, les végétaux, il leur faut du temps, mais généralement, ils s'adaptent beaucoup plus vite que nous. Donc voilà, on essaie de faire comprendre aux gens que c'est forcément grave pour l'environnement, mais les végétaux en eux-mêmes ont l'habitude, on connaît ça. Il y a déjà des milliers d'années, voire des millions d'années, les végétaux s'adaptent toujours au changement climatique. Donc voilà, on essaie d'accompagner ça et de faire en sorte que les gens comprennent que les végétaux, de plus en plus, peuvent s'adapter au fait qu'ils fassent moins 10 et plus 40.
Quelle est la différence entre un arbre et une plante ?
Alors, la différence, c'est que les plantes, si tu veux, c'est la famille. C'est-à-dire que les plantes, ça regroupe tout. Ça peut être aussi bien le pied de tomate que la petite plante vivace, que l'arbre. Si tu veux, la plante, c'est ton nom de famille et l'arbre, c'est ton prénom. Voilà, pour t'expliquer un petit peu, la plante regroupe tout ce qui est végétal, tout ce qui est vivant et végétal, et l'arbre dedans, c'est une sous-famille des plantes. Dedans, après, tu as les arbustes, tu as les fleurs, tu as les annuels, tu as les légumes, tu as plein de choses. Voilà, c'est vraiment la plante, elle englobe vraiment tout.
Sais-tu quelle est l'espèce d'arbre le plus grand ?
Alors, il existe le plus grand du monde, il s'appelle Hyperion. Alors, Hyperion, de mémoire, je crois que c'est un séquoia. C'est le plus grand arbre au monde qui existe encore. Je ne saurais pas te dire sa taille exacte, mais il fait, je pense, au moins 80 mètres largement. Mais je sais que son nom, c'est Hyperion. Il me semble qu'il est dans les forêts américaines du Colorado. C'est le plus grand arbre au monde qui existe aujourd'hui.
Merci à Florian d'avoir répondu à nos questions. Il nous reste un dernier contenu à vous faire écouter. C'est l'heure de découvrir notre lecture du livre « Un castor très occupé » de Nicolas Hoadland. C'est l'histoire d'un castor tellement occupé à travailler qu'il ne prend pas toujours le temps de réfléchir. Ce qui finit par poser un vrai problème, non seulement son barrage fuit, mais en plus la forêt est sans dessus-dessous. Le castor laisse les troncs à moitié rangés, ou pire encore, coupe beaucoup plus d'arbres que nécessaire. Mais le plus grave, peut-être, c'est qu'il est si peu attentif qu'un beau jour, l'arbre atterrit directement sur le crâne d'un ours. Et qu'il mord même la patte d'un élan en croyant que c'est un tronc. C'est un castor qui ne fait vraiment pas du tout attention. Arrive alors ce qui doit arriver, une catastrophe.
Un jour, qu'il range un arbre avec un train, le castor ne s'aperçoit même pas que le tronc tombe
droit sur lui.
Le castor se réveille à l'hôpital avec une queue tordue, des pattes cassées, trois côtés brisés, quatre gros bleus, cinq doigts foulés, six orteils retournés, sept petites courbures, huit égratignures cuissantes, neuf muscles endoloris et dix méchantes échardes.
Toute sa vie, il n'a fait que ranger, nager et construire sans même s'arrêter une minute. Et là, c'est à peine s'il peut se gratter le bout du nez.
La seule chose qu'il est capable de faire, c'est de regarder le plafond.
Puis il commence à guérir. Grâce au repos, ses forces reviennent. Enfin, il peut essayer une nouvelle paire de béquilles.
Et marcher en boitant jusqu'à la fenêtre. Là, pour la première fois, il remarque son barrage qui fuit. La forêt sans dessus tout, les arbres à moitié rongés, les pansements de ses amis et une famille d'oiseaux sans abri. Il comprend qu'il a du passe sur la planche.
Le jour suivant, le castor se lance dans un vrai programme de rééducation. Il se remet sur les pieds, fait beaucoup de yoga et soulève des poids.
Il en profite aussi pour lire des ouvrages importants. Et s'exercer à dire « je suis désolé, je suis désolé ». Bientôt, il est prêt à rentrer à la maison.
À vrai dire, ses amis sont plutôt inquiets de le voir revenir. Le castor, lui, se met directement au travail. « Salut les copains, fuyez !»
Avant de se lancer dans son premier projet, le castor inspecte l'arbre de haut en bas. S'assure qu'aucun animal n'est en danger et met en lessure une chenille à pelle. Puis le castor entreprend de construire un nouveau nid pour une famille d'oiseaux sans abri.
Il s'excuse ensuite auprès de ses amis d'avoir agi sans réfléchir et provoquer autant de dégâts. Désolé les copains.
Afin de montrer qu'il est sincère, il fabrique un joli pot de fleurs pour la tanière de l'ours. Merci ! Et construit un canoë pour l'élan. J'accepte tes excuses.
Pour finir, le castor range le bazar qu'il a semé dans la forêt.
Il retire tous les arbres à moitié rongés, utilise les branches brisées pour réparer son barrage qui fuit, et plante des jeunes arbres pour remplacer ceux qu'il a abattus. Une fois la forêt remise en ordre, tout le monde se sent beaucoup mieux, le castor aussi.
Après avoir accompli ce travail, le castor réfléchit à ce qu'il pourrait faire ensuite. Il a plusieurs idées avant d'aller se coucher cette nuit-là.
Prendre des cours de construction de barrages, créer un groupe de musique et partir en tournée, ou faire plus souvent la sieste, cette idée lui plaît tout particulièrement.
Épuisé d'avoir bien travaillé, le castor bâille, pose sa tête sur un doux matelas de feuilles et s'endort aussitôt. Il ne lui reste plus qu'à faire des beaux rêves.
Oh non, c'est déjà la fin de notre émission. On espère qu'elle vous a donné envie de sortir faire des balades. Passez un bel été. Au revoir.
Radio Bélé, bonne onde.
Je m'appelle Naël.
Bonjour, je m'appelle Louis.
Bonjour, c'est Loki.
Bonjour, je m'appelle Laurine.
Hello, my name is Bérénice.
Bonjour, je m'appelle Abel.
Bonjour, je m'appelle Tiana.
Konnichiwa, je m'appelle Izzy Rose.
Salut, c'est Ayla.
Nous sommes